about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le cinéma. Cette émission est préparée par Aïssa Toundoy, Lucie Gomo, Boris Pinault, Copelia Ménardi et Camille André. L'équipe technique ce soir, Robert Air, Cédric Châtelus, Célia Dufour et Benjamin Vignal. Pensée pour Jean-Frédéric, qui est dans le studio en haut au 158. La réalisation signée Daniel Finot. Autour de moi ce soir, en public, dans du Bel Air, le bar de la maison de la radio. Nous vous attendons ici hein, tous les vendredis, je vous le rappelle. Lucille Como, Charlotte Garçon, Antoine Guillot pour parler ensemble de Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, de 15h17 pour Paris de Clint Eastwood et de Revenge de Coralie Farja. Boris Pinault est également avec nous pour donner à entendre vos commentaires sur Facebook ou Twitter. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations magnifique pour la séance France Culture, Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandicot. Vous avez toujours rêvé de voir Antoine Guillou en vrai. Ce sera jeudi 15 février à 20h au Majestic Bastille, puisqu'Antoine présentera avec le réalisateur cette avant-première. N'est pas coutume, on va commencer par un tweet, Boris Pinault, un tweet un peu générique de l'émission.
Oui, de Mathieu Tufraud sur le sommaire, parfait exemple de votre humour, Arnaud, il le précise. Un rappel curieux, le Rape and Revenge, le film, le sous-genre du cinéma d'horreur dans lequel s'inscrit l'un des films au sommaire, a été inventé par la source de Bergman. Alors toujours sur le sommaire, le réalisme chabrolien, le cinéma épique US ou le cinéma de genre, telle est la question.
Mais voilà, ça fait un chapeau, pourquoi j'en ai écrit un. Merci à... Comment s'appelle-t-il ?
Mathieu Tufraud.
Merci Mathieu Tufraud sur Twitter. Donc on ouvre cette dispute avec Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, qui avait eu un court-métrage nommé aux Oscars, récompensé au César. Il signe là son premier long-métrage. Il a gagné le Lion d'argent du meilleur réalisateur à la Mostra de Venise. Il débute par une longue scène d'une quinzaine de minutes dans le bureau d'une juge des divorces. Le film auscultant la relation... compliqué d'un couple se séparant, ça prend la forme d'un thriller, puisque le spectateur doit se demander qui dit vrai dans cette histoire.
Voilà ce qu'a dit Julien. Julien a 11 ans, il est en 6e A1 au collège Théodore Monod de Saint-Dumont, et il a dit « Mes parents sont séparés depuis un an, je vis maintenant ici avec maman et ma sœur. On va fêter les 18 ans de ma sœur à la salle des fêtes de Vial. On habite tous là-bas chez papy et Nani, sauf mon père. Par contre, je ne peux jamais jouer devant la maison ou dans le jardin, car on a peur que l'autre vienne. Papy se met à crier quand il le voit et c'est pas bon pour sa santé. Quand il vient, je m'inquiète pour maman, parce qu'il veut juste lui faire du mal, juste ça, c'est pas un père et c'est pour ça que je suis contente que mes parents divorcent. Joséphine aussi, elle ne l'aime pas, mais elle n'est pas obligée de le voir vu qu'elle est grande. Moi aussi, je ne veux plus jamais le voir et je ne veux pas que le juge m'oblige à aller avec lui une semaine sur deux ou un week-end sur deux parce que je ne veux plus le voir, plus jamais, je n'ai plus rien à ajouter. Voilà, bien, Maître Davigny, je vous écoute. J'ai l'impression que vos enfants sont remontés contre vous, monsieur. Vous pouvez expliquer ça ?
J'aimerais bien comprendre. Je ne sais pas ce qu'on leur met dans la tête.
Je précise concernant la bande-annonce que le bureau de la juge n'est pas dans une boîte de nuit, hein, que la musique n'est pas dans la scène, mais ça c'est comme d'habitude. C'est Lucille Como qui va commencer à nous parler de ce film de Xavier Legrand.
Oui, qui va avoir du mal parce que c'est...
Qui assez... vous oui. Vous parlez de vous à la troisième personne. Ah d'accord, on en est là. Bon, très bien, allez-y.
Non mais c'est difficile de parler de ce film pour deux raisons. Parce que d'une part, je pense que c'est mieux de le voir sans en avoir absolument aucun écho auparavant. Pour les raisons que vous évoquiez aussi dans la présentation que vous en avez fait, c'est-à-dire que c'est un film dont l'intérêt réside dans la posture dans laquelle il nous met et qui est une posture de quelqu'un qui doit décider, arbitrer entre, en l'occurrence, deux personnages. C'est un peu plus finalement parce que les enfants rentrent dans le jeu. Donc du coup, il faut pas trop en dire. Et d'ailleurs, la bande-annonce a ceci pour une fois d'assez admirable, qu'elle n'en dit vraiment pas beaucoup. Donc c'est difficile pour cette raison-là, et c'est aussi difficile parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé, dont je suis sortie vraiment littéralement flageolante, et que j'ai du mal, parce que je pense qu'il est très fin, j'ai vraiment du mal à analyser ses ficelles, et notamment la manière dont il met les choses en scène. Alors il faut peut-être revenir en effet sur cette première scène, qui est une très longue séquence pendant laquelle les deux parents se retrouvent face à une juge, puisque c'est vraiment... C'est plus qu'un début d'intrigue, c'est vraiment une posture dans laquelle ça nous installe. Ensuite, ça installe une sorte d'éthique qui, à mon avis, est vraiment la force de la mise en scène, qui est une éthique de la complexité. C'est-à-dire que jamais il y a une de simplification des rapports, et la mise en scène s'attache à tout le temps complexifier, faire douter. Alors on pense que peut-être la mère, elle manipule aussi ses enfants, puis on revient sur cette opinion-là, on change à nouveau d'avis sur le père. C'est une oscillation permanente dans laquelle nous met le film, qui est une tension qui aboutit après dans un final dont on parlera évidemment pas, mais qui est quand même vraiment très, très saisissant et très réussi. Donc c'est un film très efficace, très fin sur les rapports. Les acteurs sont, je pense qu'il faut en parler tout de suite, parce qu'en fait ils portent vraiment aussi la complexité et la finesse du film, parce que c'est étonnant, parce que quand on les voit sur l'affiche, tout paraît évident. Denis Ménochet, cette espèce de masse, je ne sais pas combien de mètres il mesure, mais on a l'impression qu'il en fait 4. À côté, il y a Léa Drucker qui est toute fine. Et ce contraste-là ne dit justement absolument rien de ce que sont les personnages. Et ils arrivent à sortir de leur posture physique pour vraiment créer un couple assez étonnant.
On poursuit avec Antoine Guillot, ce premier tour de table sur Jusqu'à la garde.
Alors il va essayer d'avoir un peu plus de facilité à parler de ce film.
Il essaye.
Non, c'est un film qui est très intéressant parce qu'il trouve toujours le point de vue le plus malin, je dirais, et sans que ce soit péjoratif, pour aborder une question d'actualité, une question assez rebattue. Alors j'aurais aimé que les critiques qui parlent de ce film aient les mêmes précautions pour dévoiler quel était le sujet de ce film. Je pense aussi que leur vision du film était un peu obéré par la vision du court-métrage qui a été très très vu et qui abordait les mêmes questions de manière plus claire immédiatement avant que tout... Que tout se perde, je crois.
Avant que de tout perdre, pardon.
Et de ce fait, effectivement, on est dans un certain climat incertain dès le début, parce que les évidences du film semblent contrecarrées par la mise en scène et par le récit au début. Comme vous le disiez, Lucille, la présence de Ménochet, qui a une présence inquiétante physiquement parlant, le distribue a priori dans le rôle de l'homme violent, de l'homme qui en impose, de l'homme qui fait peur. Et puis ça semble prendre une autre piste. Oui, mais ou du gros nounours, mais les nounours ont des grosses griffes, parfois des grosses paluches, même si lui-même se considère comme quelqu'un de bien. Encore un personnage de cinéma français qui s'appelle Antoine, ça ne vous aura pas échappé, et qu'on va suivre en fait. C'est-à-dire que
ça ne vous a pas échappé.
Mais enfin, non, mais c'est ça toujours c'est, ça. Ça devient vraiment les premiers films, notamment.
Les auteurs sont fascinés par vous, Antoine Guillot. C'est leur inconscient travail.
Certainement. Je me reconnais pas beaucoup dans le personnage de Ménochet. Or, le film nous invite à ça, et c'est ça qui est intéressant, de nous mettre dans la peau de ce personnage. Ce qui fait qu'on voit le monde selon lui, de façon tendre ou déformée, notamment dans la posture victimaire dans laquelle il s'installe, alors qu'il a été très clair. Il le raconte, Xavier Legrand, qu'il a surtout demandé à Léa Drucker de ne pas se mettre en position de victime, ce qui en fait un personnage assez fermé, assez opaque, donc très cinématographique, et on peut nous projeter tout ce qu'on veut là-dessus. Il y a des moments où on se demande si on ne va pas partir dans un film d'enfant démoniaque qui manipulerait tout le monde pour créer le chaos. Il y a une tension, des mécanismes de thriller qui s'installent très clairement sans qu'on sache jamais pourquoi. On est inquiet. On sent l'inquiétude générale qui étreint la plupart des personnages de ce film, sans pouvoir identifier très précisément la cause. Il y a une montée, on se dit mais qu'est-ce qui va arriver jusqu'à effectivement cette fin assez shiningienne, on dira, qui est quand même très clairement citée dans la mise en scène. Et puis il y a quelque chose qui est intéressant, vous parliez de la longueur de cette scène du début, mais la longueur est le principe de mise en scène générale. parfois presque de manière trop ostentatoire, c'est-à-dire une manière de dire, regardez comme je fais durer ce plan sur des jambes dans des toilettes pour que vous vous imaginiez ce qui se passe derrière ou dans telle scène, assez brillamment faite d'ailleurs, une scène de fête d'anniversaire où la jeune fille dont on fête l'anniversaire est sur scène et tout en chantant observe des choses bizarres qui se passent dans la salle où nous-mêmes nous nous projetons, tiens, est-ce que c'est tel personnage qui est en danger, est-ce que celui-ci a disparu, tiens non il revient donc ça doit être, etc. Mais voilà, c'est presque trop long, même si ça a une efficacité certaine, qui est celle de nous mettre dans un état de tension qui fait sortir pas forcément les jambes flageolantes, mais il se passe quelque chose dans ce film, en tout cas.
Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour vous, chat de garçon, en voyant Jusqu'à la garde ?
Alors, je suis un petit peu plus réservée par rapport à ce film. Je suis d'accord sur le principe, qui me semble quand même un peu systématique, de faire durer les séquences pour que ce soit des blocs qui, du coup, génèrent leur propre tension rythmique chez le spectateur, qui a envie que quelque chose se passe, quitte à ce que cette chose soit violente. Et quand même, ça, c'est un problème. On parlait d'éthique tout à l'heure. C'est un problème général du film, à savoir mettre le spectateur en état d'attendre le passage à l'acte. Et moi, c'est ce qui m'a posé problème dans le film, alors que justement son ouverture, qu'on a opportunément entendue grâce à la bande-annonce, allait ailleurs. Il me semble qu'on l'entend même quand on n'a pas vu le film. On entend la juge qui lit de manière un peu mécanique, enfin c'est une lecture, le compte-rendu écrit qu'a fait l'enfant. Donc on est dans un type de texte particulier qui a un statut juridique, qui est la parole de l'enfant, mais médiée par ce côté cadré, relu, et écrit, etc. Et je trouve que là, il y a véritablement une tension entre cet enfant qui est là sans être là, les deux parents qui sont présents mais qui ne sont pas là puisqu'ils ne disent rien, ils n'osent rien dire, et la juge. Et donc il y a cette tension entre le monde juridique qui parle, qui a tout, qui a toutes les billes, qui a même la parole de l'enfant, et les parents qui sont censés être au centre de ce qui est en train d'arriver et qui ne le sont pas. Et ça, je trouve que c'est assez fort et assez virtuose dès le début du film. Et ensuite, par contre, moi je suis allée un petit peu, pas de déception en déception, c'est beaucoup dire, mais vers justement ce qui me semble une facilité du cinéma français, c'est-à-dire de dire il y en a marre du naturalisme et du réalisme, on patauge dedans pendant une heure et puis ensuite on bascule du côté du thriller, du film de genre. Et j'ai trouvé que le film se complaisait tout de même à le faire, même si on n'est pas obligé de révéler comment il le faisait. Avant cela, pour autant, il y a une utilisation d'un espace qui est, je trouve, assez idéal pour maintenir cette tension, qui est l'espace de la voiture. Et qui est voilà un habitacle à la fois très banal. Le père va chercher
fourgonnette.
Voilà. Oui. Donc il y a un côté un peu mini caravane.
Parce que derrière on balance tout.
Parce que oui, le père donc trimballe ses propres affaires puisqu'il a déménagé pour pouvoir avoir en partie la garde de son fils, et il va réussir, on peut le dire, à l'avoir parfois. Du coup, à chaque fois qu'il a ses entrevues avec son fils, c'est dans la voiture, et je trouve que l'espace est assez bien utilisé du point de vue dramaturgique, et ça m'a fait penser au Petit Criminel de Jacques Doyon, où il y avait aussi des très longues séquences dans la voiture.
Entre Sète et Montpellier.
Voilà, et où il y avait une tension aussi qui se crée entre un adulte et un enfant. Mais voilà, moi je regrette quand même j'allais dire la tentation du fait divers, parce que montrer l'exception, malgré tout, c'est la généraliser, qu'on le veuille ou non. Et donc il y a une espèce de torsion sociologique et en même temps du côté du genre, de direction du spectateur, que je trouve un peu facile.
Bon, moi je partage plutôt le point de vue de Charlotte Garçon sur ce film-là. D'abord, je quand même souligne la qualité de programmation de toute l'équipe de La Dispute qui met au programme trois films où on attend le surgissement de la violence, et on verra que c'est différemment évidemment chez Clint Eastwood et chez Coralie Farja, mais en fait ça fait trois études de cas intéressantes. Moi je vois un film qui est très bien fait, mais dont je vois quand même toutes les intentions de mise en scène, qui amène pour moi pas beaucoup de tension, ou alors quand elle en amène, effectivement je la trouve assez désagréable pour le spectateur, mais d'un point de vue éthique, pas de sensation d'horreur ou d'attente du... On en reparlera pour Coralie Farja, si on est vraiment à peu près aux antipodes. Pour moi, ça, voilà, la durée ne fait pas le suspense, ça, on l'a dit aussi. C'est pas toujours très fin non plus. Je trouve que vraiment, pour moi, la grande scène de ce film, c'est celle de la fête, en effet, où là, d'un coup, il invente peut-être pas, mais il arrive à générer une tension, parce qu'on l'a peut-être pas dit, mais la musique est pour le coup là très forte, et on voit bien que les gens se parlent, se montrent un texto, mais on n'entend rien. on aimerait entendre une phrase, et c'est vraiment une situation pour le coup là de spectateurs très attentifs qui nous est demandé pour essayer de comprendre ce, mais on n'a pas les clés pour, et vraiment ça, je trouve que c'est une très belle réussite. Pour les plans sur la jeune fille chantant sur la scène sont peut-être un peu trop répétés. C'est il y a une forme d'insistance, je crois que vous avez aussi employé ce mot, Charlotte Garçon, qui pour moi dessert quand même par moment le film, qui aurait gagné une plus grande tension avec peut-être une économie de temps aussi. Vous voyez ce que je veux dire, Antoine Guillot ?
Oui, mais c'est ce que je voulais dire quand je parlais d'une mise en scène un peu ostentatoire dans ses extrémités par moment. Et la question de la déception m'intéresse précisément parce que c'est après cette scène de fête que les choses deviennent plus claires et que pour moi, le film devient moins intéressant parce que le jugement a eu lieu pour le spectateur. Et cette injonction qui nous est donnée...
La dernière scène est très réussie, dont on ne peut pas parler.
Mais voilà.
Je la trouve très réussie.
Non, mais après, ça part dans autre chose. Et la dernière scène... marche très bien, là aussi sur la durée, parce qu'il y a des plans sur des réactions de personnages à ce qui se passe, sans en dire plus, il s'est passé quelque chose sur ce tournage. Je ne sais pas comment il les a dirigés à ce moment-là. J'espère qu'il a été moins dur que Stanley Kubrick
avec Shelley Duvall.
Avec Shelley Duvall. Mais en tout cas, il obtient à peu près le même résultat. Et il se passe quelque chose de très fort. Mais... moi, c'est l'ambiguïté du début, le côté, le film qu'on pouvait se faire soi-même. À partir du moment où le projet devient clair, se clarifie, c'est beaucoup moins intéressant. Et lequel des deux ment le plus, c'est ce que nous demande la juge au début, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus. Ce qui est intéressant, c'est que les deux mentent.
Oui, mais ce qui est moi, j'aurais aimé suivre cet aspect du film procédurier, film juridique, parce que vous disiez, Charles Garçon, il parle pas, mais parce qu'à ce moment-là de la procédure, ce sont pas les parents qui parlent, ce sont leurs avocats, et seulement quand la juge leur demande telle ou telle chose, ils peuvent prendre la parole. On aurait pu suivre ce fil-là, dans ce film. D'autres films l'ont fait. C'est vrai que j'ai lu aussi deux, trois petites choses dans la presse qui évoquent le film de Joachim Lafosse qui s'appelait...
L'économie du couple.
L'économie du couple, qui m'avait déplu pour d'autres raisons. Mais il y avait une tension quand même tout autre. Aussi problématique peut-être, Charlotte Garçon.
Oui, alors j'ai aussi pensé à ce film L'économie du couple qui raconte une séparation, mais qui va dans la chair de... Alors non pas la chair, dans la chair de la discussion. C'est-à-dire que là, c'est vraiment des mots, et les mots qui peuvent blesser, les mots qui... Et là, le problème pour moi, c'est que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on n'est que dans la menace du passage à l'acte. Comme si les gens n'avaient plus de mots ou qu'on était dans un au-delà des mots. Et du coup, on a une figure quasiment dogme. Enfin, et
on débloque.
Et on sent les références. Effectivement, on sent La Nuit du Chasseur, on sent Shining. Et voilà, on en parlera plus pour un des autres films de ce soir. Pour moi, ces références-là, elles sont en fait assez toxiques sur le risque à prendre quand on fait un film d'une forme d'inconnu. Enfin, de qu'est-ce qui va se passer entre ces deux, dans cette famille, qu'est-ce qui va se passer en jouant avec des acteurs, notamment un jeune acteur de 12 ans. Tout ça apporte du risque et des choses qui peuvent être. Attraper au vol et créer cette tension, et il me semble que c'est surécrit et du coup elles ne sont pas attrapées.
Oui, mais ça rend cet enfant de 12 ans très étrange. Moi, pour moi, c'est une des beautés du film. C'est cet enfant. Alors peut-être qu'il lui a demandé de ne pas trop en dire, de ne pas trop jouer, mais ce personnage de gamin reste mystérieux, très mystérieux jusqu'au bout, je trouve.
Assez peu, parce qu'on voit d'emblée, dès les premières choses qu'il dit, qu'il va protéger sa mère. Et en fait, de manière répétée, c'est ce qu'il fait.
Oui, mais de manière névropathe, ça peut être intéressant aussi.
Lucille Comeau, plus près du micro même.
Non mais en fait, je pense notre c'est difficile du coup d'en parler parce que notre idée de la fin du film est différente. Donc pour moi, justement, il y a ni bascule du naturalisme à une forme de film de genre, ni sur le fond d'une indécision à quelque chose d'aussi clair que ça. Pour moi, la fin, elle est pas du tout claire. Donc, et de la même manière, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que disait Charlotte. Je ne vois pas le moment de bascule stylistique de quelque chose de très naturaliste à vraiment quelque chose de très référencé vers le genre. Moi, je trouve que justement, ce qui est fort dans la mise en scène, c'est qu'il tient en permanence les deux. Et cette scène de fête, de ce point de vue, je trouve, est peut-être là où ça se voit le plus, où c'est le plus manifeste, parce qu'il y a un ancrage sociologique évident dans la France des classes moyennes, de la province, cette salle municipale où on fait la fête, et on sent que les amis de la jeune fille en question, on voit très bien à quel milieu ça correspond. Je veux dire, il n'y a pas de déni de ce que c'est que la France qu'il filme. film. Et pour autant, la tension du film de genre, elle est là. Et j'ai pas l'impression qu'on perde ça à la fin. Pas du tout, même dans la dernière scène. Il y a une voisine qui est là, il y a des spectateurs de cette dernière scène qui réancrent dans un réel français de cette zone d'immeubles en périphérie de ville. Donc je suis pas d'accord sur cette évolution là, de la même manière que je suis vraiment pas sûre que quand le film s'arrête, on sache plus ce qui se passe dans ce couple que au départ.
Qu'est-ce qu'en pensent les réseaux sociaux, Boris Pino, de ce film de Xavier Legrand?
Patrick Braganti, sur Facebook salue la performance en particulier de Thomas Georgia, qui incarne
le
jeune garçon, et parle d'un premier film parfaitement maîtrisé. Vera Shain évoque le climat oppressant du premier film de Xavier Legrand, lequel installe une sorte d'anti-rythme intrigant. Benjamin Montels sur Twitter parle d'un grand thriller social de cinéma français à son meilleur, à la fois profond et haletant. Et Romain Leverne met en garde sur Twitter toujours: n'oublie pas que tu vas finir ce film en PLS, surpuissant jusqu'à la garde de Xavier Legrand.
Bon, mais que des compliments alors, vous avez trouvé ça sur les réseaux. Antoine Guillot, parce que à l'inverse de Lucille Gaumont, moi je pense que à peu près dès que le film commence ou presque, les choses sont très claires et que finalement la fin ne fera que confirmer ce que, en tout cas, oui, Charles Garçon, vous acquiescez.
Oui.
Antoine Guillot.
Ben non. Enfin, pour moi, c'était pas clair. Peut-être que je me suis pris à complexifier le film, espérant qu'il ne soit pas aussi clair qu'il aurait pu l'être. Mais du fait de suivre le personnage du père au début, on est quand même largement dans son point de vue, parfois en surexplicitant les raisons pour lesquelles il pourrait être ce qu'il est aujourd'hui par rapport à ses propres parents, etc. Mais souvent de manière plus subtile, nous incite à douter. Voilà. Et pour le coup, j'étais pas du tout sûr de ce que je voyais. Et le film m'avait recelé énormément de possibilités. C'est presque dommage, justement, qu'il n'en choisisse qu'une sur la fin.
Bah, selon Lucille Gaumont, il ne choisit pas. Donc, on a vu des films différents, mais c'était bien le même.
Je peux vous poser une question sur le tweet. Ça veut dire quoi, finir en PLS?
Position latérale de sécurité. Il faut que vous fassiez un stage de secourisme, Antoine Guillot.
Ah non, ça, je pourrais jamais sauver quelqu'un dans un train.
Ça manque à votre parcours. Dans un train, on va en parler. Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, sorti mercredi sur les écrans, à suivre dans la dispute, Clint Eastwood et Coralie Farjat.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Suite de cette émission consacrée au PLS ce soir et au cinéma aussi, avec le nouvel opus de Clint Eastwood, le 15h17 pour Paris, qui n'a curieusement pas été montré à la presse avant sa sortie, ce qui signifie généralement le peu de crédit qu'un distributeur a pour le film en question. Alors bon, on va voir ce que vous en avez pensé. Il est inspiré, on le sait, sans doute d'une histoire vraie, puisque le film revient sur le parcours des trois Américains qui ont neutralisé un terroriste dans le TGV Thalys. C'était le 21 août 2015. Les trois héros qui jouent leur propre rôle dans ce film.
Once you begin to discover who you are, then you really realize how you have been given authority over your life. But you can only do that through the struggle of life. And most people avoid the struggle. Most people go through life avoiding pain. When you're working on a dream, at some point in time, a transition takes place. Start challenging yourself to dig deeper. Something in you that you never activate is lying dormant in there. Don't try and take any shortcuts. We've been chosen for this great work.
I don't know, man. You ever just feel like life is just pushing us towards something? Like some greater purpose?
Antoine Guillot, je ne sais pas si vous vous sentez habité par ce grand but dans votre vie, mais on s'est tellement engueulé tous les deux sur Clint Eastwood.
Oui, je me demandais combien de fois on avait pu se disputer sur des films d'Eastwood.
Ça commence à faire en quelques années.
J'ai bien senti pourquoi vous nous avez programmé ce soir avec
non,
Charlotte
mais parce
Garçon.
Que, mais alors, vous ne, attendez la fin de ma phrase. On s'est tellement disputé sur Clint Eastwood que je n'ai pas encore vu le film et que je ne suis pas sûr d'y aller. Sauf si vous me faites changer d'avis, donc je vais être tout oui. De toute façon, je le suis tous les soirs. Antoine Guillot, 15h17 pour Paris.
Alors, je ne suis pas complètement sûr de vous inciter à aller voir ce film. Je vais vous avouer que moi-même, du fait que la Warner a pris ses précautions pour ne pas le montrer, sauf aux télévisions qui recevaient les trois véritables héros de cette histoire, et puis la bande-annonce et le projet lui-même faisaient un peu peur. Alors, on peut dire que c'est un échec, mais un échec tout à fait intéressant chez Eastwood.
Ah non, mais alors vraiment, mais si, parce que c'est intéressant.
Mais bien sûr, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il a il a fait ça, qu'est-ce qu'il a voulu raconter et est-ce que ça marche ou pas. Donc première mauvaise idée, c'est de prendre les trois vrais héros de ce film que Eastwood a rencontré à l'occasion d'une remise de prix aux États-Unis. Il lui a raconté son histoire, il a trouvé ça formidable, et puis il raconte la légende, il a fait tout un casting, et puis il trouvait personne d'aussi fort qu'eux pour les faire venir dedans. Alors, le vrai problème, c'est qu'il joue quand même un peu comme des patates, hein, ou comme des épis de maïs, on sent les garçons très bien nourris au maïs américain.
Vous avez quelque chose contre les militaires américains?
Très costaud, des corps assez étonnants. On comprend mieux en voyant ces corps pourquoi certains acteurs comme Mark Wahlberg ou autres se surépaississent. Finalement, c'est pour ressembler à ces corps-là, assez massifs, à la limite de l'adipeux par moment. D'ailleurs, c'est un des problèmes du personnage principal. C'est mis en scène dans le film. Il doit maigrir pour pouvoir faire ses classes. Donc, comme ils ne sont pas très bons, il est obligé de prendre des gens qui ne sont pas très bons autour d'eux. Donc, il va raconter leur enfance, puisque le film raconte majoritairement tout ce qui se passe avant ce moment très court qui est le moment de leur accession à l'héroïsme et à la célébrité ensuite. Donc il va choisir Clint Eastwood des enfants qui jouent pas très bien non plus, mais comme ça il n'y a pas de solution de continuité. Puis à la fin du film, là je dévoile rien, on voit un certain président de la République, François Hollande, leur remettre la Légion d'honneur et être très mauvais dans son propre rôle quand il dit son texte pour les féliciter. Ce sont des images d'archives. Alors c'est pas retourné. Non, mais ils ont tourné des plans de coupe. Il y a un sosie de Hollande filmé par derrière parce que la cérémonie de l'Élysée n'avait été fournie qu'avec un axe unique, donc il fallait bien dynamiser un peu tout ça. Alors l'idée de ce film, en gros, qui ne ment pas trop à son spectateur, parce qu'effectivement on va vers ce 15h17, ce train de 15h17 qui va à Paris. Régulièrement, on a des petits extraits du moment de l'action qui arrive à la fin. Alors on ne sait si c'est pour ne pas voler le spectateur qui est venu pour voir cette scène d'attentat déjouée, donc il faut leur en donner un petit peu tous les quarts d'heure. Est-ce que ce sont des flash-forward, c'est-à-dire ces jeunes gens qui se sentent, comme on l'entend dans la bande-annonce, avoir un destin, voilà, il y a quelque chose de plus grand qu'eux qui les emmène vers quelque chose qu'ils ignorent, mais à un moment il faudra qu'ils soient prêts. Donc ça c'est la version téléologique. Ils ont été formés pour pouvoir faire ça. C'est presque la dimension hoxienne du cinéma d'Eastwood, hein, beaucoup plus que Fordienne, il me semble. C'est-à-dire la fraternité d'armes, les bons techniciens qui connaissent les bons gestes, qui leur permettront de faire ce qu'il faut au moment de l'attentat. On peut le voir à l'inverse, comme tout ce qui se passe dans leur enfance et leur adolescence, comme un long flashback, style les choses de la vie. Au moment de l'action, on sent qu'on va mourir et on revoit toute sa vie. Bon, voilà. Alors ça, c'est selon qu'on veut attaquer ou pas Eastwood, parce que ceux qui ont attaqué Eastwood en disant « Regardez, c'est encore une preuve de cette insupportable idéologie de la destinée manifeste chez les Américains, on est là pour sauver le monde, etc. » Mais on peut prendre le film de manière plus retorse, parce que ce qu'il montre de ces jeunes gens, c'est que ce sont des inadaptés sociaux dès le départ au lycée. Ils passent leur temps dans le bureau du principal, ils sont enfants de mères célibataires, on n'arrête pas de le rappeler que c'est très mal d'être une mère célibataire aux États-Unis, qui sont très religieuses et qui leur bourrent le mou, aussi bien à l'école en leur disant, regardez, quand on est américain, il faut se lever et être prêt à aller soit libérer l'Europe, soit prendre ses responsabilités. Côté religieux, il faut prier Dieu pour trouver un sens à sa vie. Et finalement, on peut voir le film comme l'histoire de trois ratés. Et sans arrêt, même quand ils veulent s'engager dans l'armée, ils sont trop mauvais. Celui qui a réussi à s'engager dans l'armée, il oublie son sac sur une route d'Afghanistan. Ils sont obligés de retourner au village. Enfin, c'est vraiment la catastrophe, quoi. Ils sont vraiment des nuls. Mais dont une circonstance, cette heure-là, 15h17, dans un train pour Paris, va donner un sens à leur vie. Et on pourrait se dire, si c'était pas passé ça, finalement, ça n'aurait été que l'histoire de loser sans grand intérêt. Alors le problème, c'est que scénaristiquement, après, il ne se passe pas grand-chose. Une des raisons pour lesquelles cet aspirant soldat se fait réformer, dans tout cas ce qu'il voulait faire, c'est qu'il a un problème de perception de la profondeur. Et le film a le même problème, c'est celui de la perception de la profondeur, d'arriver à nous raconter autre chose qu'une vie lamentable. Ça peut faire des très grands films, des vies lamentables, mais sans qu'on ait vraiment un regard très passionnant dessus. Ça donne juste une première 1h20, 1h15 de début de film qui est très ennuyeux. Après, la scène de l'attentat déjoué est très efficacement filmée, très factuelle, assez forte. Là, on est dans quelque chose qui est sans emphase, nous met complètement au cœur de l'action. Mais voilà, le vrai problème, ce sont ces comédiens dits amateurs. On sait que d'immenses films se sont faits avec des personnages qui jouaient leur propre rôle, mais pour ça, il faut avoir une façon de faire du cinéma qui n'est pas celle d'Eastwood, qui lui filme très efficace, il fait un plan, deux plans, et après, il passe à la suite. Et avec ces aspirants comédiens-là, ça ne marche pas du tout.
Bon, il faudra être Bruno Dumont pour le 15h17 pour Arras, peut-être, avec eux. Lucille, comment avait l'air d'accord avec rien
non.
Sur
non,
vous, Antoine Guillaume, donc je lui donne la parole. Dès maintenant.
J'ai pas du tout aimé ce film, je me suis profondément ennuyée, mais pas du tout pour les mêmes raisons, même des raisons à peu près inverses. C'est-à-dire que je craignais énormément ce choix, donc d'avoir choisi les fameux trois héros dans leur propre rôle, alors que finalement, c'est ce qui m'a le plus intéressée, c'est de les observer en me disant, ils sont en train de rejouer, de sublimer d'une certaine manière des choses qu'ils ont vécues il y a quelques mois. Je trouve ça assez étonnant. Pour le coup, là, il y a une démarche. Enfin, il y a une idée, quoi, vraiment, clairement. Après, ce que ça donne n'est pas très intéressant parce qu'il n'y a pas de mise en scène et que ce n'est pas intéressant. Mais le fait d'avoir quand même fait jouer ces trois personnages, et les trois en plus, pas un seul, les trois ensemble, je trouve que c'est assez intéressant. Et moi, contrairement à vous, Antoine, je ne les trouve pas si mauvais. Notamment le héros, le fameux, qui a vraiment, qui s'est jeté littéralement. Enfin, je ne sais pas si ça l'est fait, mais vraiment, il se jette à main nue sur un type qui a un flingue pointé sur lui. Enfin, c'est quand même assez impressionnant comme geste. Lui, je le trouve vraiment pas si mauvais comme acteur. Donc, ça m'a intéressé de le regarder évoluer à l'écran. En revanche, je pense que c'est super votre idée de ils sont nuls et en fait ils sont super. Mais je pense pas du tout. Enfin, ils sont jamais nuls. Quand ils sont enfants, ils sont pas nuls. Ils sont juste incompris par l'État, en fait, par leur institutrice, par l'État américain qui ne fait pas son boulot. Et finalement, à la fin, ils sont reconnus par l'institution. Donc, en fait, c'est toujours, comme d'habitude, une remise. Et le Clint Eastwood, grand justicier, qui rend gloire à ses héros. Donc, de ce point de vue-là, je ne suis vraiment pas sûr.
C'est pas tant grand justicier que le Eastwood qui, effectivement, se méfie de l'État, des institutions, qui montre des personnages solitaires, inadaptés, qui se révèlent être des héros.
Mais ils ne sont pas inadaptés. Hein. Enfin, par exemple, vous parliez de la prière. Leur mère ne leur bourre pas du tout le mou. Lui, il fait le petit, il fait sa prière. Il est tout à fait heureux de faire sa prière. Il a un autocollant I love NSA derrière lui. Il a un poster de Full Metal Jacket, je veux dire, tout est pointé et fléché
et
en permanence dans le film.
De Iwo Jiwa.
Voilà. Par ailleurs, vous n'avez pas parlé d'un autre aspect du film qui est, en fait, à mon avis, le gros problème, c'est que faire un clip pour la US Army, ça prend 6 minutes. Sauf que là, c'est un film d'une heure et demie, donc il faut meubler. Et alors, qu'est-ce qu'il fait pour meubler? Il nous refait les vacances des trois Américains. En Europe, ça dure quand même, je ne sais pas, je crois 45 minutes de vacances. Donc, de ces trois types qui refont leurs vacances. Donc, ils devaient être contents. Hein, ils retournent dans leurs mêmes auberges de jeunesse. Donc, des Américains qu'on voit hein, quand on part en vacances, qui sont bourrés, qui vont en boîte, qui boivent de la bière à n'importe quelle heure de la journée, qui confondent Bruges et Amsterdam. Donc, ça dure quand même pendant 45 minutes. Et ça n'a aucun intérêt.
Le film dure combien de temps,
même
en fait,
du point de vue justicier, etc. Moi, j'étais prête à tout prendre. Enfin, même du point de vue propagande, etc. Ça n'a aucun intérêt. Et ça, c'est quand même vraiment un... Enfin, c'est plus qu'un ventre mou. Ça va pas du tout. Donc, la fin dure... c'est ce fameux acte d'héroïsme incroyable qui est en effet intéressant à regarder et qui est extrêmement violent. J'ai trouvé, par ailleurs, très, très violemment mis en scène. Pour le coup, la violence est limite difficile à supporter. Ça, c'est pas inintéressant, mais c'est 5 minutes. Voilà. Et le reste, il faut se farcir des gros beaufs américains, petits puis grands. C'est vraiment pas intéressant du tout.
Charlotte Garçon, sur ce film de Clint Eastwood.
Il me semble que cette vacance, on pourrait dire, de ces jeunes gens, en tout cas dans la démarche, sert de tremplin au moment de catharsis qu'on attend. Donc il faut justement que ce soit, c'est un peu ce que disait Antoine Guillot sur les losers, et à un moment ils ont leur heure de gloire. C'est effectivement la construction du film, le projet même du film, c'est de montrer la banalité extrême de ces jeunes gens. Ils sont pas critiqués, il n'y a pas de satire de ce milieu parce qu'ils aimeraient les armes ou parce qu'ils seraient d'une famille religieuse. Au contraire, effectivement, ils sont tout à fait respectés dans le milieu dans lequel ils grandissent, mais il faut ce très long temps de grande banalité, et ça c'est quand même une réflexion, pour le porter au crédit d'Eastwood, enfin en tout cas je trouve intéressant dans le cinéma américain, c'est ce côté lancinant de la question de l'héroïsme, que ce soit chez Spielberg, Le Pont des Espions, que ce soit, évidemment, on parle souvent de Frank Capra à ce micro, on pense à ces héros qui ne sont rien et qui, à un moment, sont des gens absolument clés parce qu'ils peuvent saisir un kairos, vraiment le moment opportun.
Enfin, les héros de Clint Eastwood, ce ne sont pas des moments de même nature
non,
que de Frank Capra.
Mais
là,
justement,
ça s'inscrit quand même dans les films précédents, American Sniper, celui d'avant s'appelait, je ne me rappelle plus.
Sully. C'est complètement celui-là, le prolongement de Sully.
C'est une trilogie, là, pour l'instant.
C'est tout à fait le prolongement de Sully, si vous vous souvenez, cet homme qui était un pilote assez banal et qui a désobéi au protocole habituel de conduite pour pouvoir sauver un avion qui allait s'écraser.
Et tous ses passagers.
Et si vous vous souvenez, dans Sully, dès que le sauvetage a lieu, il s'efface, il devient une espèce de où est Charlie, vous savez, il se perd dans la foule et c'est pas du tout, justement, il reçoit pas la Légion et au contraire, on lui fait un procès. Donc c'était un film qui était beaucoup plus intéressant parce qu'il se consacré au procès qu'on fait au type qui a désobéi, parce que quand même il y a le protocole, et si tout le monde faisait comme vous, etc. Ici, on a l'impression qu'il va bien en deçà de cette complexité et qu'il nous montre juste des types effectivement très ennuyeux, mais qui vont avoir leur moment parce qu'en fait, en réalité, on les a préparés. Effectivement, ils s'ennuient tellement et ils veulent tellement de l'action parce que ils n'ont pas réussi à avoir les marines, ils n'ont pas réussi à avoir un degré dans l'armée suffisant. Et du coup, ça tombe absolument à pic. Donc, c'est pas tout à fait un hasard. C'est pas l'histoire d'une coïncidence. C'est l'histoire de gens qui veulent absolument sauver le monde et qui ne le font que de manière, on pourrait dire, réduite ou en miniature dans ce train.
On va refaire un tour de plateau. Boris Pinault, quelques commentaires?
Oui, Roberto, sur Twitter, Eastwood n'échappe pas à un manichéisme patriotique pro-militaire navrant, mais propose une œuvre troublante qui interroge sur la limite entre fiction et réalité. Marine Bienvenot, à force de recyclage, la fabrique de héros ordinaires d'Eastwood ne fait plus recette. Yves Gounin, vous êtes venu voir un film sur un attentat terroriste commis dans un train. On vous sert le 15h17 pour Paris sur Riri, Fifi et Loulou, convoqués chez le proviseur pour être arrivés en retard au bahut. Et Christophe Despo, une fois n'est pas coutume, est positif et plébiscite plutôt ce très étrange 15h17 pour Paris. Morceau choisi, ce qu'on voit de l'armée américaine est vraiment critique. De l'alerte ridicule transformant une classe de militaires en enfants apeurés à sa comparaison explicite avec un camp de vacances, Eastwood signe un film beaucoup plus amer qu'il n'y paraît.
Ah, vous êtes d'accord, Antoine Guillot.
Bah, c'est là que je suis d'accord avec le dernier et en désaccord avec le précédent Twitos, parce qu'il n'y a aucune démarche admirative de l'armée américaine. C'est simplement utile pour apprendre les gestes, pour soit faire un point de compression pour arrêter une hémorragie ou apprendre quelques prises de jiu-jitsu. Bah, qui sont toujours utiles pour arrêter quelqu'un. Mais sur l'armée en général, c'est quand même un peu... Alors soit c'est le sadisme habituel qu'on voit dans tous les films, on fait faire des pompes à quelqu'un parce qu'il est arrivé en retard, soit, encore une fois, on oublie son sac, on fait toutes sortes de choses. Enfin, c'est pas une héroïsation de l'armée en général, il y a quelque chose de très factuel. Et alors, je suis... assez d'accord sur le côté presque suicidaire de la démarche d'Eastwood là-dedans, de se dire il faut faire la banalité la plus totale parce que l'acte héroïque, on ne va le faire durer que le temps de l'acte héroïque. On aurait pu faire tout le film dans un train attendant qu'est-ce qui se passe, la démarche jusqu'à ce que ça arrive et puis dilater le temps de l'action. C'est très rapide, c'est très bref, c'est assez spectaculaire, mais une fois que c'est passé, c'est passé. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, cet ennui total est un ennui total pour tout le monde, y compris pour le spectateur. Et ces scènes d'Europe, toutes ces utilisations...
Carte postale.
Un peu mais on est dans la carte postale parce qu'on a des touristes qui vont visiter des lieux de carte postale. Donc ça, pourquoi pas. Mais il y a une citation régulière du fait qu'ils utilisent des selfies. Alors ils se prennent sans arrêt en selfie pour tourner dans tous ces lieux de manière assez assez légère. Manifestement, le chef op du film a utilisé lui-même un téléphone portable, quelque chose de très léger. Donc ça aurait pu faire une sorte de mise en abîme du selfie, mais on a là encore quelque chose qui est très plat, qui manque de profondeur. Aussi parce qu'il y a un regard qui ne veut pas... c'est quand même dangereux d'avoir les vrais personnages dans le film. On ne peut pas avoir un regard critique dessus. On ne peut pas avoir un regard un peu plus complexe. Pour le coup, ça serait intéressant de montrer ce qui est arrivé après. Quand on regarde le dossier de presse, on apprend que un des trois héros est une sorte de serial intervenant dans des disputes et que dans sa ville, il s'est pris trois coups de couteau qui ont failli le tuer longtemps après l'attentat, parce que c'est toujours le héros qui est là pour intervenir et peut-être dans une démarche jusqu'au jour où il va enfin rencontrer la mort qu'il désire, on ne sait pas.
Pas le même genre de dispute. Hein. Charlotte Garçon ?
Oui, c'est pour ça que je pense qu'on voit tout de même qu'il cherche l'occasion et que ce n'est pas du tout l'histoire d'une coïncidence ou d'un hasard providentiel.
Oui, dans l'alerte, dans la salle de classe, on le voit. Il a très envie de sauver tout le monde avec un stylo. Quoi.
Mais du coup, la formation à l'armée est là justement pour être quand même toujours prêt dans le côté scout et c'est plutôt une apologie de ça. En revanche, moi, je me suis presque dit que les séquences touristiques et très, très, effectivement, ce qui se complaisent dans la banalité de l'Américain qui dit « Oh, on a rencontré une Californienne. Oh, mais quelle coïncidence. Bah oui, on est à Venise. Il y a
beaucoup
partout,
de jolies filles en Europe, hein, j'ai remarqué dans ce film.
Mais et en fait, je pense au fond qu'on patauge tellement dans ce tourisme qu'une fois, moi, dans le train, je me suis dit finalement, l'acte héroïque est contaminé par ça et fait partie de leur épopée touristique. Et c'est là où, à mon avis, c'est pas du tout ce qu'ils voulaient.
C'est leur grand tour à eux.
Oui, c'est une forme de voilà ce qui m'est arrivé. Je suis allée et la preuve, j'ai été embrassée par le petit nain, là, le petit président qui est tout petit par rapport à eux, etc. Enfin, si on m'avait dit que le discours de François Hollande ferait l'argument d'un film d'Eastwood, parce que c'est ça, quand on écoute le mauvais discours de François Hollande sur l'humanité, vous avez fait un geste d'humanité, c'est exactement le pitch du film d'Eastwood.
Bon, une dernière info, Lucille Comeau, vous m'avez glissé tout à l'heure.
Ah oui, non, parce qu'il y avait quand même Jean-Hugues Anglade dans le train, donc moi j'ai attendu Jean-Hugues Anglade pendant tout le film. Je me suis dit, bon, quand est-ce qu'il arrive Jean-Hugues Anglade ? Ça aurait été très drôle, plus drôle que François Hollande finalement.
Oui, parce qu'il est pas
allé. On aurait pu faire jouer François Hollande par Jean-Hugues Anglade.
Il n'est pas allé chercher la Wi-Fi dans la première classe. On apprend quand même, si vous prenez le Thalys, si vous avez besoin d'envoyer des mails, allez en première classe, parce que dans la seconde, manifestement, enfin en tout cas à l'époque, il n'y avait pas le Wi-Fi. Par contre, on vous offre des petits snacks hein, aussi en premier.
Bon, 15h17 pour Paris, Clint Eastwood sur les écrans depuis mercredi.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Le troisième sujet de cette dispute cinéma, toujours en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, c'est Revenge, premier long métrage de Coralie Farja. Il s'agit ici, pour la réalisatrice passée par Sciences Po et la Fémis, de revisiter le sous-genre Rape and Revenge, viol et vengeance.
Jennifer, Stan Dimitri, my associates.
Hi.
Hi.
Hey. You're driving me completely crazy.
So, tell me, what is it you don't like about love?
You're not my type, that's all.
I'm not your type?
Alors pour une fois, j'aime bien dire que dans la bonne annonce, il y a autant de musique que dans le film. Donc là, c'est pas faux pour une fois. Cette bande annonce est à l'image sonore et visuelle de ce film dont nous parle Charlotte Garçon. Le film s'appelle Revenge.
Vous voulez vraiment qu'on parle du film ou du contexte de l'industrie française qui fait que ce genre de film existe et largement
par,
diffusé.
Vous le prenez par le bout que vous voulez, si je peux me permettre.
Alors, c'est très difficile parce que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à rester jusqu'au bout, pas tant par la violence gore qui, effectivement, qui monte en crescendo dans le film, que dans ce pseudo jeu sur des clichés qui en réalité ne fait que les reproduire et ne fait que les perpétuer. Moi, j'ai eu l'impression de voir au début, il faut quand même juste raconter un petit peu l'arrivée d'un hélicoptère dans le désert. Et une jeune femme en sort en mini-jupe, et on a donc des plans extrêmement publicitaires et délibérément tels sur, on se croit vraiment au milieu des années 80, voilà, sur ses jambes.
Mais pas que ses jambes.
Voilà, son entrejambe découvert par le vent du désert, n'est-ce pas ?
Enfin, il y a une villa quand même dans
le désert. Et tout ce prologue qui, ensuite, elle rencontre son amant, etc., on dirait vraiment une mauvaise publicité. Enfin, bon. Et on se dit, le film installe quelque chose que la violence va venir dynamiter. Et de fait, le mouvement général du film, ce serait, disons, partir de la chair attirante de cette jeune bimbo, regarder ses fesses, faire beaucoup de plans sur elle en bikini dans une très très belle maison au milieu du désert, et puis ensuite rentrer dans la chair puisqu'il y a très tôt un viol, et puis ensuite aller plus loin dans cette pénétration avec toutes sortes de mésaventures de la chair et de sa façon dont elle est triturée de manière très très gore ensuite dans le film. Bon, on voit bien le programme, et pourtant, moi, vraiment, ce qui me frappe là-dedans, c'est que j'ai eu l'impression de bout en bout de voir une stratégie à l'œuvre dans le cinéma français qui est de dire voilà, on n'en peut plus du réalisme, on n'en peut plus du naturalisme et du film d'auteur, il faut qu'on trouve autre chose, et voilà ce qu'on propose. Y compris un habillage pseudo-féministe de ce genre de film. Donc je suis à la fois très très en colère, et je trouve ça d'une telle platitude, d'un tel manque d'intérêt, mais je vois bien que c'est quelque chose qui est de plus en plus affirmé et qui accueille les suffrages et des institutions qui vont financer les films et des distributeurs et du public. Donc il y a une espèce de stratégie là qui est en train de se mettre en place dans la culture cinématographique française pour dire il y en a marre, les auteurs, l'auteurisme à la française issu de la nouvelle vague nous a fait trop de mal et vive le film de genre. Ben, si c'est ça la proposition de film de genre, voilà, pour moi c'est absolument rien. C'est un film qui, pour moi, ne naît d'aucune nécessité. Je suis vraiment...
Pour préciser vos propos, chers garçons, vous n'avez rien contre le film de genre en soi.
Mais je ne sais même pas ce que ça signifie d'être pour ou contre le film de genre. Je veux dire, oui,
le film... Non, mais il y a des films de genre que vous appréciez en tant que film de cinématographe.
À partir du moment où c'est le genre, et le genre au départ, c'est un programme commercial pour que le spectateur puisse reconnaître qu'il joue avec les attentes du spectateur, pour que de manière, disons, confortable, même si c'est des films d'horreur, d'épouvante, puisse cocher des cases et qu'on ne l'emmerde pas, si vous me permettez, avec justement des histoires de mélange entre des genres, de critiques, de choses risquées, de choses qu'on ne comprenne pas. Et donc l'idée, c'est voilà.
Mais il y a bien des purs westerns que vous aimez,
mais
pour
bien
prendre
sûr,
que ce genre
sûr.
Le plus évident.
Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire cette démarche de dire je vais faire un film de genre, et en soi, c'est un acte politique, c'est un.
Cette dimension-là qui vous pose problème ici.
Je trouve que c'est un cache-misère d'absence totale d'idées de mise en scène.
Bon, Lucille Gomeau.
Je comprends très bien ce que dit Charlotte Garçon à propos de ce geste-là. J'irais même peut-être plus loin en rentrant dans ce qu'est le film et dans sa forme, puisque en plus, Coralie Farja a beaucoup dit qu'elle revendiquait vraiment de faire un film au premier degré, donc un film de genre au premier degré, de ne pas s'emmerder, je vais encore reprendre les mots de Charlotte Garçon, je n'assume pas, avec en plus une esthétisation qui pourrait être aussi celle du jeune cinéma français, une francisation du film de genre entre guillemets. Elle fait un film de genre, donc elle tourne quasiment entièrement en anglais, sans distance aucune par rapport aux clichés, à tout ce que sont les clichés de ce genre-là. En l'occurrence,
le pied nickelé.
Oui,
mais
l'idée, il y a quelque chose de faire un truc au premier degré. Enfin, moi, je l'ai senti comme ça. Et je me suis dit, dans un premier temps, pourquoi pas. Alors le genre en l'occurrence c'est le rape and revenge, donc le viol et la vengeance, donc est binaire comme son nom l'indique. En l'occurrence, ce que je trouve étonnant dans ce film, c'est que et son caractère proprement ennuyeux, enfin moi j'ai trouvé aussi très très ennuyeux, il tient peut-être, alors je vais essayer de l'expliquer, au fait que le viol est totalement minimisé par la mise en scène. C'est-à-dire que le film ne prend même pas ce risque-là de filmer la première violence. Ah ben, c'est rien du tout, parce que en fait, pour décrire un petit peu la mise en scène, il y a deux personnages masculins qui sont impliqués, et en l'occurrence, le film, à ce moment-là, adopte le point de vue de celui qui laisse faire et donc se retire, ferme la porte de la chambre et va dans le jardin, j'allais dire le jardin, le désert. Donc, en l'occurrence, on ne voit pas ce qui arrive à cette pauvre jeune fille, et donc toute la suite qui est la pulpe même, enfin voilà l'intérêt du film n'est pas vraiment tendu, puisque on n'a pas vraiment d'empathie pour elle, on n'a pas vraiment envie qu'elle trucide ces types, puisqu'on n'a pas vraiment vu ce qu'ils lui ont fait. Si, il y a quand même coup il y a un problème de tension vers la fin. C'est une traque pas vraiment tendue, pas très motivée, pas vraiment tendue par la mise en scène non plus, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours géographiquement, c'est n'importe quoi. Donc du coup il manque cette espèce d'horizontalité de flèche, pour le coup, de choses tendues vers une fin, qui fait que on aime ce genre de films qui peuvent être des films jouissifs, parce que très très simples. Et je trouve que voilà, elle revendique un truc simple, un truc terre à terre, un peu anti-théorique, anti-intello, et de fait, on se retrouve avec quelque chose de sans substance, pas ni d'humour, ni vraiment de assumer la forme. Enfin, c'est ennuyeux, quoi. Moi, je me suis beaucoup ennuyée.
Antoine Guillot, sur Revenge.
C'est vrai qu'on observe une envie d'aller vers, et qu'on dit d'aller vers le genre de l'horreur, hein, dans une jeune génération de cinéastes qui en ont marre, pas seulement de la nouvelle vague, mais des héritiers de la nouvelle vague. C'est-à-dire c'est une génération qui ne veut plus, veut pas refaire du Desplechin, pour résumer. Ça se sent très fort à la Fémis, notamment. C'est pas pour rien qu'on a eu le Grave de Julia Ducournau, mais qui voulait être le film de genre intelligent, le film de genre qui
pareil.
Disait regardez comme je suis presque plus intelligente que ça. Donc Coralie Farja essaie d'aller dans l'autre sens que ce que vous dites premier degré, qui est pas tellement le premier degré, parce qu'on est plutôt dans le genre d'un Sam Raimi par exemple, ou d'un Peter Jackson, c'est-à-dire déjà une relecture du genre par l'excès, par l'exagération, par le gore plus gore que gore, par les gros plans plus gros plans que gros plans, voir ces gouttes de sang qui tombent sur une fourmi, voir cette façon presque burlesque la fin du film de cette poursuite qui tourne en rond et qui macule la maison. Voilà, non, mais c'est le côté burlesque. Là, je dis que c'est l'héritage Sam Raimi, c'est l'héritage Tarantino, par exemple. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le premier degré du genre, de gens qui prenaient très au sérieux le genre, sachant qu'ils faisaient des films dans un système, un sous-système hollywoodien qui produisait ce genre de films parce qu'ils n'avaient pas accès aux grands studios.
C'est pas Corman, hein.
Et qu'à l'intérieur de ça, ils faisaient en contrebande des films, pour le coup, extrêmement politiques et complexes, et qui ne se limitaient pas à un seul message. Après, balance ton porc, charcute ton porc. C'était des films très complexe sur leur société, et c'est aussi parce qu'il y a une culture américaine de ce genre-là, et qui remonte à Lovecraft, à Poe et au Pulp, qui n'existe pas du tout en France. C'est une façon d'importer un genre de manière très artificielle, en copiant des gens qu'elle a...
En copiant Tarantino,
qui lui-même déjà copié. On est déjà dans le deuxième stade de la photocopie et de la citation. Donc il y a des moments où, effectivement, elle sait y faire, ça marche un peu. Il y a beaucoup de moments où ça fait mal aux yeux, notamment cette façon de rythmer artificiellement par le surdécoupage, d'utiliser des filtres qui sont montrés comme filtres, parce qu'on est dans une maison dans le désert où il y a des fenêtres colorées. Alors c'est une manière de ne pas aller complètement dans le baroque à la Dario Argento, en montrant, regardez, si je la filme en rose ou en vert, c'est parce qu'il y a un filtre derrière. Donc c'est un film qui s'assume pas complètement, et qui n'est pas très intelligent, je dirais, qui est techniquement correct, bien fait, assez agaçant par moments, mais qui manque certainement de premier degré, pour le coup, et de réflexion en même temps. Il faudrait trouver enfin un moyen terme entre Julia Ducournau et Coralie Farja.
Ouais, alors moi, je ne crois pas du tout au premier degré. Je n'ai pas lu les entretiens qu'a pu donner Coralie Farja, ou je ne l'ai pas entendu sur telle ou telle antenne. Alors, je ne sais pas quel est l'agenda caché du système.
Non, c'est pas caché. Elle a co-fondé un groupe qui s'appelle La Squadra, qui demande... à des gens qui sont des techniciens ou des réalisateurs déjà de genre, de les aider pour. Enfin, il y a vraiment cette idée de créer toute une un mouvement, y compris industriel, pour pouvoir mieux financer ce type de film.
Ouais,
donc c'est un changement industriel important.
D'accord, j'ignorais aussi ces faits, parce que j'avoue que je ne vois pas bien la nécessité, là je vous rejoins, de faire ce film. Moi, par contre, j'ai pas mal rigolé en le regardant, parce que je l'ai vu au... Alors, je sais pas combien de sième degré, mais du post-post-post. Je pense que si j'avais l'âge que j'avais quand j'ai vu Evil Dead à la sortie, j'adhérerais peut-être à ce film de Coralie Farja aujourd'hui. Je pense que ça s'adresse sans doute pas du tout à nous, me semble-t-il, mais à une bien plus jeune génération. Mais si, parce que ce genre de film marche sur des pulsions post-adolescentes, enfin, qui sont assez primaires. Et je me fais mon portrait d'il y a quelques années. En parlant de ça, on est sur des choses un peu bêtes et méchantes, mais qui, moi, m'ont encore fait rire aujourd'hui en voyant Revenge. Après, la nécessité pour moi que ce type de film existe, je l'avoue, n'est pas absolument évidente.
Oui, mais encore, ça serait un projet purement commercial. C'est-à-dire qu'il y aurait un producteur qui se dise, je vais être le comment s'appelle Jason Blum du cinéma français, je vais lancer des films de genre parce que ça rapporte beaucoup d'argent et ça coûte pas très cher. Au sein de ce genre de démarche, des cinéastes se glisseraient en contrebande et feraient des films très intéressants qu'on voit apparaître dans ces cas-là. Là, on est dans quelque chose de contraire. C'est quelqu'un qui a très envie comme réalisateur de faire un film de genre pas très intelligent et qui cherche désespérément des producteurs pour le faire, parce qu'il n'y a pas d'écosystème pour ça en France. Alors vont-ils réussir à le créer? Mais encore une fois, on va se retrouver dans un système à la française où l'État va créer les conditions d'émergence d'un film de genre au lieu que ce soit des initiatives bêtes et méchantes qui font émerger des génies.
Bon, on n'a pas eu le temps de redonner la parole à Paul Espino. Il y avait quelques avis quand même enthousiastes pour Revenge sur les réseaux sociaux. Revenge de Coralie Farja, sorti mercredi. On conclut l'émission avec le jeu de la dispute et avec Camille André qui va d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier soir et nous donner sa réponse. Camille.
Pique-nique est l'adaptation sur grand écran d'une pièce de théâtre du même nom. Qui en est l'auteur? Et c'était William Inge.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour la séance France Culture. Les Garçons Sauvages de Bertrand Mandico. Ce sera jeudi 15 février à 20h au Majestic Bastille à Paris. Avant-première en présence du réalisateur, ce qui est bien, certes, mais surtout animé par Antoine Guillot. Quelle est la question, Camille?
Dans quel film fut révélée l'actrice Pauline Lorillard à l'affiche des Garçons Sauvages de Bertrand Mandico?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel on peut bien sûr réécouter nos émissions, s'abonner au podcast, vous préparer vos commentaires pour lundi cinéma, 19h, cinéma, non, spectacle vivant, en compagnie de Lucille Gomeau qui fera la passe de 3, Fabienne Pascot et Philippe Chevillier, à notre affiche art de Yasmine Areza, mise en scène de Patrice Kerbra, J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie vienne de Jean-Luc Lagarce, mise en scène Chloé Dabert, et Bluebird de Simon Stephens, mise en scène par Claire Devers.